Parlons maintenant de notre monde juridique. Allons rejoindre notre avocat criminaliste et spécialiste en droit de la famille du bureau RPG Avocat, mon ami Maître Richard Philippe Gay. Bonjour Richard.
Bonjour, comment ça va matin?
Ça va, je t'en fous. Moi, tu le vois, ça ralentit pas pantoute.
Non, mais justement, je t'écoutais dans mon auto avant d'arriver au bureau, là, puis je suis tellement d'accord avec toi, la garde partagée, lorsque ça débute le vendredi, ça te permet d'avoir du beau temps de qualité avec tes enfants.
Ouais, puis moi, je suggère beaucoup, quand les enfants sont en bas âge également, le 2-2-2-5-5, parce que je trouve que dans beaucoup de situations, premièrement, tu vois tes enfants plus régulièrement, ça a des inconvénients. Mais le 2-2-5-5, ça veut dire que, mettons, lundi-mardi, toujours avec papa, mercredi-jeudi, toujours avec maman, puis le vendredi, on switch pour les week-ends, ce qui fait des 5 jours. Et je trouve que ça permet aussi aux parents d'être le gars qui est d'une ligue de hockey, ou la madame qui fait de la gym, ou qui fait de... Tu sais, d'avoir, tu sais, le mardi, les ligues de hockey, là, c'est tout le temps le même soir, mettons. Là. Ben, t'as ton... Oui. Tu sais, t'es capable de synchroniser... et de garder un semblant de vie plus facile. Moi, je trouve que c'est une méthode de garde, là, surtout pour les enfants en bas âge. 2-2-5-5, c'est une façon qui fonctionne bien. Toi, t'en penses quoi?
Ben, c'est ce que je recommande souvent lorsque j'ai des enfants qui sont pas encore commencé l'école ou bien qui commencent l'école la maternelle la première année. Là, du 2-2-5-5, tout le monde est gagnant. C'est sûr, lorsque c'est plus vieux, là, on va probablement offrir, privilégier le 7-7, là, du vendredi au vendredi, mais effectivement, 2-2-5-5, même des fois, on fait du 2-2-3. Faut être créatif, hein, faut toujours penser à l'enfant.
Mais quand ils ont 18 puis 20, puis ils arrivent à tout bout de champ avec le char, tu sais, hier soir à 11h, ça arrivait à genoux, là, ça venait de chercher du linge, puis des... c'était une autre affaire, hein, ça?
Ouais, on en parlera dans une autre chronique.
Ah, c'est bon. Là, tu veux nous parler du fardeau de la preuve. Donc, quand il y a une poursuite ou un procès qui est débuté, il faut que le poursuivant, donc celui qui initie ce processus, démontre avec hors de tout doute raisonnable tous les éléments qui constituent l'accusation qu'il pose contre l'autre personne. Ça paraît lourd, mais c'est rattaché à 3 conditions seulement, de ce que je comprends.
Ben c'est ça. C'est que première des choses là dans notre système juridique, c'est le DPCP qui doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la personne accusée a commis tous les éléments constitutifs de l'infraction criminelle. Alors, tu sais, on n'a pas à prouver notre innocence. Alors, c'est pour ça qu'on va recommander bien souvent à nos clients de pas faire aucune déclaration. Parce que dans ce temps-là, lorsque ton client fait une déclaration, mais dans le cadre du procès, on peut le confronter sur des déclarations antérieures. Donc, la déclaration qu'il aurait faite au policier, puis là, ben, s'il vient témoigner puis il dit le contraire, ben, on va dire à quel moment qu'il dit la vérité puis à quel moment qu'il ment. Mais, parce que je sais, là, lorsqu'on s'est parlé, là, tu voulais me parler un petit peu du dossier Roson. Je trouve que c'est tellement un bel exemple où ce qu'on a des versions contradictoires. Là. J'écoutais, vous disiez, ben, c'est ça, c'est un one-on-one qu'on appelle. Tu sais, c'est qui qu'on croit, là? Parce que c'est ça, c'est que la Cour suprême du Canada, en 1991, l'arrêt WD, est venu expliquer le principe qui doit s'appliquer dans tous les dossiers en droit criminel pour obtenir une preuve hors de tout doute raisonnable.
Et c'est quoi ça veut dire, ça? Je comprends pas, là. C'est quoi l'arrêt du principe WD?
Bon, là, c'est le nom, là. C'est un dossier d'agression sexuelle et on a mis que les initiales de l'accusé. Et on est venu, si on veut, mettre des balises, dire, ben, c'est quoi le droit qui doit s'appliquer? Et c'est pour ça que c'est une question en 3 étapes qui s'applique si l'accusé témoigne. Parce que le juge du procès n'a pas à croire la plaignante ou l'accusé. C'est pas ça, sa job. Le juge, il va rendre une décision en fonction de toute la preuve qu'il a eue devant lui. Alors donc, la première question, si l'accusé témoigne, et tantôt je vais revenir là-dessus, alors s'il témoigne et le juge croit l'accusé, ben c'est tout à fait normal qu'il doit l'acquitter.
Oui, parce que c'est automatique. S'il le croit un peu ou beaucoup, il y a un doute raisonnable, donc c'est acquitté.
Ben, c'est ça, c'est le croix. Ben, regarde, c'est ça. Hey, monsieur, je vous crois, vous l'avez pas fait. Ben, je vous crois, je vous acquitte. Sinon, le deuxième volet, c'est s'il croit pas, à 100%, mais il se demande si sa version soulève un doute. Ça tient-tu la route, ce qu'il me dit? Il y a des choses qui ont l'air bizarres, mais il y a d'autres choses qui ont l'air vraiment réelles. Donc, si le juge se pose cette question-là, c'est la notion du doute raisonnable. Donc, ben, regardez, monsieur, je dis monsieur, mais ça pourrait être une dame, là. Donc, l'accusé doit bénéficier du doute raisonnable et il doit être acquitté. Et si jamais ces deux versions-là échouent, donc, si le témoignage de l'accusé, ou bien comme je te disais au départ, si la personne a fait le choix de ne pas témoigner à son procès, parce qu'en droit criminel, on se rappelle, on n'est pas obligé de témoigner. Donc, si la personne, le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute dans la tête du juge, le juge doit se demander si, en vertu de l'ensemble de la preuve qu'il y a eu, est-ce qu'il est sûr, est-ce qu'il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. Fait que c'est ça, c'est vraiment ce test-là à trois étapes que l'on voit, parce que moi, j'ai déjà vu où ce que le juge vient dire, écoutez bien, c'était une plaignante, elle dit, madame, je crois ce que vous me dites, cependant, je considère que j'ai pas de preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et l'accusé est acquitté. Alors, c'est pour ça que je sais que tu faisais référence au procès Roson.
Ça, j'essaie de voir dans ma tête comment... Tu sais, moi, là, on a entendu des brides de son témoignage. Écoute, il s'est réveillé, puis tu sais, ça a aucun bon... Moi, là, à mes yeux, à moi, son témoignage a aucun bon sens. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il est allé dire ça, mais en tout cas... Alors, mais tu sais, en même temps, est-ce que ça lui donne le point de dire au moins il peut soulever un doute, même si le doute est très faible, parce que on a deux versions contradictoires d'un bord et d'autre. J'essaye de comprendre, puis je le vois pas là-dedans.
Ben, lui, c'est sa version qu'il a. Tu sais, Stéphane, on a de la misère de se souvenir ce qu'on a mangé samedi soir passé.
Oui.
Fait qu'imagine, là, quelque chose qui est arrivé il y a 40 ans, comment t'en souvenir? Autant la plaignante que l'accusé. Alors, c'est sûr, lui, il dit non, c'est ce qui est arrivé, c'est ma version. Alors, c'est ça que le juge va décider. Puis, on n'est pas dans la salle d'audience, là. T'sais, on n'a pas tout ce qu'on voit, les reportages qu'on voit dans les nouvelles. Ben, c'est quoi? 45 secondes, une minute, deux minutes. Et ce qui est particulier dans ce dossier-là, et j'ai hâte de lire le jugement, c'est que les avocats, autant de la couronne que de la défense, ont obtenu toutes les notes sténographiques de tout ce qui s'est dit dans les témoignages. Donc, c'est certain que ça va être une plaidoirie qui est reportée, je pense, c'est le 6 novembre, là, qui va être très détaillée. Selon moi, puis après ça, je m'attends que le juge va prendre le tout en délibéré, puis quelques semaines plus tard, ben, il va rendre sa décision qui va être étoffée sur le droit, sur la preuve qu'il a eue devant lui, puis à savoir ce que le DPCP a été capable de démontrer hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées.
Est-ce que dans des cas comme celui-là, par exemple, le juge sait très bien que peu importe le bord que ça va prendre, là, en tout cas, davantage si c'est du côté de l'accusation, que ça va aller en appel, donc il se doit d'être encore plus précis dans son jugement parce que son jugement va être contesté?
Ben, dans tous les jugements qu'un juge rend, il doit être précis et appliquer le droit. C'est pas parce que c'est qu'il y a une personnalité publique qui a plus ou moins de droits que Joe Blow, là. Le juge doit tout de même faire, et pour aller en appel, c'est pas automatique, il faut des motifs. On peut pas aller en appel là parce qu'on n'est pas satisfait du résultat. Il faut démontrer que le juge a erré, il a fait des erreurs dans l'analyse du dossier, dans l'application des principes de droit. Alors, c'est pour ça, puis il faut pas oublier que nous autres, on fonctionne avec la preuve qu'on a devant le tribunal. C'est avec ça que les juges rendent leurs décisions. C'est avec ça, moi, comme avocat de la défense puis le procureur de la couronne, on travaille. C'est ce qu'on a dans nos dossiers. C'est pas juste de dire, oui, j'ai été agressive, là, X années, que parce que je dis que c'est vrai.
Mm-hmm. Donc, ça reste très complexe. Puis ça veut pas dire non plus, s'il y a un acquittement de prononcer contre Roson, que la victime a pas été victime dans cette affaire-là, là.
Effectivement, puis là, je parle pas du dossier de Roson, mais oui, effectivement, c'est pas parce qu'on n'a pas obtenu une preuve hors de tout doute raisonnable qu'il s'est rien passé.
Quelqu'un qui est accusé comme ça, et le cheminement de la justice se fait convenablement, exactement comme ça doit d'être fait, est-ce quand il est acquitté, il y a souvent quand même des torts qui sont faits à ces gens-là. Tu sais, le tort est déjà fait, là. On a déjà pas mal toute une opinion de Gilbert Roson. Est-ce qu'il y a des recours? Tu sais, il le fait là, contre des plaignantes qui n'ont pas vu leur plainte reprise par les procureurs du DPCP, mais est-ce qu'il y a des recours contre la plaignante actuelle qui l'a emmenée devant les tribunaux?
Ben ça c'est du civil, moi j'en fais pas vraiment, Stéphane. Okay. Mais je te dirais là, le principe c'est que non, si il faudrait démontrer une faute lourde du DPCP pour pouvoir poursuivre comme ça, parce que la plaignante a fait une déclaration, elle s'est rendue au poste de police, elle a fait une déclaration aux policiers qui a été détaillée. Les policiers ont pu contacter l'accusé pour savoir s'il voulait donner sa version des faits. Après ça, c'est déposé sur le bureau du procureur qui autorise la plainte, qui prépare l'audition du dossier. Il faudrait si le procureur a pris la décision de déposer des accusations, ce qui était moralement convaincu qu'il puisse obtenir une condamnation. Mmh. Alors, c'est pas pour le plaisir et non, c'est pas parce que tu portes plainte que la personne est acquittée, que la personne acquittée peut te poursuivre comme ça automatiquement. Okay. Il faudrait vraiment démontrer une faute lourde. Là.
Une faute lourde, tu sais, parce que j'ai devant moi les éphémérides et le 18 octobre, hier, une journée comme hier, en 2001, le procureur général du Québec doit verser 2,3 millions de dollars à Benoît Proulx, citant la malveillance du ministère public de la Cour suprême. C'est la Cour suprême, donc, qui ordonne à la province, au Québec, de payer 2,3 millions de dollars à Benoît Proulx, qui avait été condamné, ensuite acquitté du meurtre de France Alain, qui remontait dans les fin des années 80, si je me souviens bien, milieu des années 80. Donc, il avait dû avoir une démonstration d'une faute lourde là, dans les accusations menées contre Benoît Proulx dans cette histoire-là.
T'as exactement, t'as ta réponse. C'est une malveillance qui a été faite. Donc, alors ce qui n'est pas le cas dans la quasi-totalité de nos dossiers qu'on a en chambre criminelle. Mm-hmm. C'est vraiment l'exception de l'exception. Puis, en tout cas, j'ai un dossier en tête. On va voir ce que ça va faire. Madame Normandeau, est-ce qu'il y a eu une malveillance? Non. On a vu Jean Charest, lui, c'est différent. Il n'a pas été accusé au niveau des tribunaux. Mais Madame Normandeau, on va voir ce qui se passe dans son dossier.
Ah, c'est
est-ce qu'elle va déposer une poursuite au civil, je ne sais pas, mais encore là, il faut prouver une malveillance. C'est plus facile à dire qu'à faire.
Exactement. Hey, merci beaucoup, Richard. Très intéressant ce matin. Donc, on a le fardeau de la preuve quand on est le poursuivant. On retient ça, c'est important.
C'est beau, une bonne journée.
Merci, au revoir. Maître Richard-Philippe Gay, avocat criminaliste et en droit de la famille, RPG avocat, ici à Québec. OK, mais ça doit être dur de départager, de dire on croit-tu complètement?
Ben oui.
Tu sais, puis oui, le fait que ça s'est passé il y a 30 ans, par exemple dans le cas de Roson et dans d'autres cas d'agression sexuelle et de crimes comme celui-là.
Il a été intelligent. Moi, je pense que s'il avait été avec un jury, il aurait été condamné tout de suite. Mais là, vu que c'est un juge seul, puis tout ce qu'il place avec un doute raisonnable va l'épargner. Là.
Mm-hmm. Comme Éric Salvaille, lui, est-ce qu'il a témoigné dans son procès?
Pas
semble que non.
Non, je crois pas.
Est-ce que tu fais le procès?
C'est encore en mode, il va revenir.
Oui, il revient devant les tribunaux.
C'est par séquence, oui, je pense.
Tu sais, parce que c'est... mais tu sais, mettons que Roson ait témoigné. Tu sais, quelqu'un là, qui a vraiment rien à se reprocher, tu te dis, ben c'est sûr, m'en aller témoigner. C'est sûr, j'ai rien fait. C'est sûr que je vais aller dire ce que je pense.
Le meilleur pour se défendre, ça demeure celui qui est accusé.
Je pense que oui. Mais dans
ses affaires. Ben.
Mais regardez, la semaine passée, Michel Brûlé a été condamné, puis c'était version contre version, me semble.
Ben oui, c'est ça. Ouais, mais regarde, c'est comme la version là à Roson, à mes yeux, à moi, tu sais, de se réveiller, tu sais, de s'est réveillé, puis il y avait une fille sur lui. Je vais te dire de quoi là. Je l'ai pas dit la semaine passée parce que je le gardais. Je l'avais déjà entendu cette histoire là. Qu'un gars se réveille, il avait une fille sur lui, puis il avait rien fait, puis il l'a poussé, puis tasse-toi. C'est un gars qui s'était fait pogner par sa femme. Tu sais? Fait qu'il avait inventé ça en disant... Il avait inventé, là,
sortir,
je le sais. Ouais, c'est ça.
En même temps, je veux dire, c'est pas impossible. Une fille qui s'en va sur un gars sans son consentement, puis ça se peut que le gars... Tu sais, ce qu'a dit Gilbert Roson, ça m'a surpris, mais j'ai embarqué parce que ça me tentait, là.
Ouais, mais...
C'était peut-être pas demandé.
Pas certain que c'est fréquent, moi, là.
Ah, ben non, fréquent,
surtout,
non.
Moi, je crois pas ça. Fait de route, là.
Ouais,
moi,
c'est ça.
Moi, c'est plus ça. Salvaille, ça revient en cours le 9 novembre. Puis ce qu'on disait en septembre dernier, c'est qu'il y a trois ex-collègues de l'ancien animateur qui auraient aussi été agressés, harcelés, qui ont obtenu une permission exceptionnelle de témoigner.
Ça, ouais.
Fait que c'est pour ça que ça s'ajoute tout le temps, là, puis ça y va par fragments, là.
C'est cool.
Mais le juge, il faut qu'il fasse fi. Le juge, il faut qu'il fasse fi de ça quand même. Le juge, il juge que ce qui lui a été dit en cours. Là.
Oui, parce que devant...
Ça, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ça veut dire que, mettons qu'il écoute la TV, puis là, il écoute les nouvelles parce qu'il veut s'informer, mettons, du COVID. Puis là, ça parle du procès Salvaille. Ah, mais il faut qu'il ferme le son.
C'est un être humain. Ouais, mais on peut pas
mais dans
penser.
Son jugement...
Ouais, dans son jugement. T'sais, son jugement, c'est quand? C'est prévu au mois de novembre, je pense.
Salvaille ou Roson?
Roson.
Les deux, novembre.
Ouais, c'est ça. Il se passe du temps, là, le monsieur, le juge. Le juge. Monsieur le juge, il faut qu'il s'informe dans la vie. Là.
Ils ne m'ont pas nommé juge non plus encore.
Non.
Hein? On prend pas.
Peut-être que tu n'es pas allé à mal, Stéphane. Tu vas pas à mal assez souvent. Peut-être c'est là.
Ah oui, c'est vrai. Faugière et Mablon, on a commandé des crèmes. Là, puis je vais recevoir par la mal.
Ça fait combien de temps, là, la dernière visite?
Ça fait longtemps, mais là, hier, c'est drôle, la maladie.
En termes de semaine.
Ah oui, plusieurs semaines.
Il y a quelqu'un qui m'avait texté que t'étais allé à mal.
Ouais.
T'étais pied, là.
C'est parce que j'attendais quelque chose, là. Mais là, c'est ça, me dit, hey, là, il va faire froid, faut aller à mal. Mes crèmes, ils vont geler.
Oui, c'est vrai.
Fait que.
T'attends que j'allume, toi, là, en arrière, là. Je pensais que je parlais de ça.
La prochaine fois, tu te filmes en allant à mal.
Ben, je vais
te filmer. On veut voir le tas que tu as.
Ah ouais, OK. On va aller chercher ça, là, les crèmes. Je vais y aller aujourd'hui.
J'ai pas la grosse trappe.
On pourrait l'ouvrir avec toi, ta malle.
Ah oui?
Oh. Mmh. Un Twitch pour ouvrir la malle.
Un Twitch, ça serait pas mal particulier. OK. Ouais, vous êtes dans Dupont le matin?
Oui.
On s'arrête tout de suite.